Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation le dernier vendredi du mois. Vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec son président Hervé Delouge, qui est aujourd'hui avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Oui, bonjour Guy, bonjour à tous.
Bonjour et bienvenue sur... Radio PFM, au sommaire de ce Variation en noir numéro 9 pour le dernier vendredi du mois de mai 2014. Tout d'abord, un gros plan sur le numéro 118 de la revue 813, la revue des amis des littératures policières. Ensuite, un coup de cœur qui n'est pas celui de l'édito du dernier numéro de la revue 813, n'est-ce pas Hervé?
Oui.
Un coup de cœur poulpesque ou poulpien, nous verrons cela. Et puis
oui.
Enfin, trois questions posé à Antonin Varenne, qui était à Arras le 1er mai dernier, et qui vient de sortir un roman historico-aventuro-planétaire, 3000 chevaux vapeur, aux éditions Albin Michel, que nous avons lu tous les deux, Hervé, que nous
absolument
avons
absolument remarquable. Voilà. C'est vraiment, on avait laissé Antonin Varenne avec le Kabyle, le Mur et le Marin, si je me souviens bien.
C'est ça.
Voilà.
Prix Amila Mecker.
Sur la guerre d'Algérie, qui avait eu le prix Amila Mecker. Et là, Antonin Varenne fait une somptueuse démonstration qui peut passer qui était un beau roman noir, mais qui peut passer à quelque chose de très ambitieux littérairement, un vrai roman d'aventure à la... c'est tout à fait honnête de dire qu'on est dans la veine de Joseph Conrad ou Stevenson, ou des romans comme ça.
C'est
voilà, mais vous en parlerez tout à l'heure.
On va l'écouter, oui.
Donc, remarquable.
Donc Hervé, alors le numéro 118 de la revue 813, alors peut-être... t'ai-je déjà posé la question à l'antenne, mais je la repose. L'auditrice, l'auditeur vraiment intéressé peut se procurer, ou comment peut-on se procurer cette revue?
Ah, alors 813 se trouve, c'est une revue d'une association, évidemment, elle est au départ, il y a les 800 adhérents de l'asso qui la reçoivent, il y a... si vous avez une bonne bibliothèque ou médiathèque un peu branchée, polar, il y en a quand même sans doute, je ne sais pas, il y en a au moins une centaine dans l'Hexagone qui sont abonnés, mais sinon pour se la procurer, le plus simple à mon avis est d'aller sur le blog 813, sur lequel par ailleurs on trouve des infos à peu près, des nouvelles infos à peu près chaque jour. Et puis là, il y a tous les éléments pour nous écrire et recevoir un numéro ou s'abonner.
Voilà,
ou,
le mieux c'est de s'abonner peut-être.
Le mieux c'est de s'abonner. Mais sinon, on peut de toute façon écrire au 19 rue Bisson, BI2SON, dans le 20e à Paris. Association 813.
J'ai le souvenir, Hervé, d'un temps où l'adresse de 813, alors je dis peut-être des bêtises, hein, tu me corrigeras.
C'était jamais.
Rue du Poulet. Non, il n'y avait pas quelque chose comme ça.
Ah oui, c'était l'adresse de notre ancienne rédactrice en chef, Françoise Poignant, qui était rue Poulet, effectivement.
Rue Poulet,
à côté du métro Château-Rouge.
Voilà, pour l'association des amis des littératures policières.
Voilà, mais maintenant 813 a un local, donc là, ce que j'ai donné, c'est l'adresse de notre... C'est notre adresse, officielle d'association.
Voilà. Alors, donc, au sommaire de ce numéro 118, bon, tout d'abord, l'édito que j'ai évoqué rapidement en introduction, avec un coup de cœur, mais un coup de cœur que tu nous avais déjà donné en primeur, si j'ose dire, donc, dans Variation en noir, puisque c'est un... Je pense que c'est le roman que tu vas garder, s'il y en a un à garder de cette année éditoriale, c'est sans doute celui-là, Hervé.
Oui, alors, de l'année 2013, oui, il est évident que quand il s'agira de voter pour les trophées, les prix que l'association 813 remet chaque année, il est évident qu'il fera partie de la liste et qu'il sera sans doute en tête. Oui, c'est un roman qu'avec d'autres du comité de sélection pour le prix du roman noir de Beaune, on a proposé à lire au jury. C'est Né sous les coups de Martin Waits, un roman britannique, et qui a d'ailleurs eu le prix du roman noir de Beaune. C'est un vrai coup de cœur. C'est un roman qui se passe à la fois en 84 dans cette espèce de triangle industriel Manchester, Liverpool, Leeds, la sidérurgie, les grèves, enfin les mineurs, vous souvenez de ça, Scargill, Thatcher qui casse très violemment ce mouvement et on est dans une espèce de ville imaginaire, Coldwell, où il y a un jeune journaliste qui raconte le mouvement qui est au cœur de cela. Il y a des accents épiques, des moments un peu hugoliens, absolument splendides. Mais toute l'intelligence du livre, c'est d'être un incessant ces années-là et 20 ans après, avec que deviennent peu à peu le jeune journaliste a évidemment vieilli, il revient écrire l'histoire du conflit et puis les complexités que sont devenus les personnages et le roman jusqu'à sa fin se construit ainsi et on ne cesse d'apprendre de nouvelles choses, d'en dévoiler. C'est absolument remarquable, littérairement, humainement, voilà.
Donc ça,
hautement recommandé.
Oui, oui. Donc ça, c'est ton coup de cœur de l'édito et donc une.
Oui, chez Rivage Thriller.
Rivage Thriller. Alors au sommaire de ce numéro, et je tiens à le signaler d'ailleurs, à côté de la page du sommaire, il y a une photo de Romain Slocombe illustrée d'un court extrait de Criminel Ordinaire de Larry Foundation, hein, qui a été publié chez Fayard Noir, Larry Foundation, dont un nouveau recueil de nouvelles ou un nouveau court roman vient de sortir d'ailleurs, hein, je pense.
Oui, qui est dans un autre genre, également préoccupé, mais l'exprimant différemment du social aussi. Mm-hmm. Larry Foundation, qui est un travailleur social à Los Angeles et qui par ailleurs a écrit, c'est son troisième recueil, ou comme tu dis, c'est entre le roman, les nouvelles et tout ça, et c'est toujours.
Alors la photo de Romain Slocombe, c'est vraiment une belle illustration, je trouve, de cette phrase, hein, de Larry Foundation, je la cite: je regarde de près et je vois que l'urine a décoloré à tout jamais la cuvette blanche qu'on a achetée chez Sears. Et là, je me dis qu'on aurait dû l'acheter en beige ou en vert quand on en avait les moyens. Voilà, donc un numéro placé sous ce signe assez noir, même si le dossier, c'est un peu exceptionnel aussi pour la revue 813, en fin de compte, c'est la suite, hein, d'un premier dossier qui était consacré dans le numéro précédent à Hillary Quinn.
Oui, Hervé. On termine parce que tout bêtement, c'était un très gros article dossier du regretté Jean-Pierre Deloup, qui a été aux manettes de la défunte revue Polar. Et on ne pouvait pas mettre la totalité dans le précédent numéro qui, lui, était un dossier Hillary Quinn. Donc là, il y a la fin de ce très gros article. Après, il y a une série de...
Oui, tout à fait, justement, j'évoquais le côté noir, et notamment, donc, il y a un article de Patrick Reynal sur Harry Cruz, hein, le dernier roman paru en France, Nu dans le jardin d'Éden, très noir, et c'est d'ailleurs Patrick Reynal, hein, je pense,
c'est Patrick Reynal qui avait découvert Harry Cruz dans les années 90, je crois, quand il était aux commandes de la série noire et qu'il avait créé la collection grand format La Noire, et qu'il avait découvert Harry Cruz comme il a découvert Chris Offutt ou Larry Brown, enfin bon, des auteurs américains assez remarquables. Et effectivement, et là, eh bien, il a apporté chez Sonatine ce roman qui est un des premiers romans de Harry Cruz, et on pourrait croire, comme des fois dans ces cas-là, que ça va être, bon, allez, c'est un inédit, c'est peut-être un truc non pas bâclé, mais pas achevé, pas très... Or, je crois que c'est le deuxième roman de Harry Cruz, et on voit déjà que c'est éblouissant, avec un final absolument... qu'on n'oublie pas. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais...
Si, je l'ai lu. Il me semble qu'on en a parlé aussi, d'ailleurs.
Je crois qu'on en a déjà parlé.
Donc, voilà. Donc voilà un article de celui qui nous a fait découvrir cet auteur, Patrick Reynal. Oui. Alors ensuite, au sommaire, Bill James. Un petit mot sur Bill James, Hervé ?
Écoute, oui, Bill James, c'est un auteur... un auteur anglais également qui n'est pas qui a beaucoup influencé les séries les bonnes séries policières mais qui a un enquêteur qui est très très attachant et qui écrit ça fait je ne sais plus à quand remonte le premier la première aventure de Bill James traduite ici, mais il y a déjà longtemps, je crois que peut-être 15 ans, 20 ans, j'en sais rien, et Bill James a un certain nombre de fidèles, mais n'a jamais été reconnu sans doute à sa juste place comme d'autres, et là, il y a Jean-Louis Touchant qui aime Bill James depuis toujours et qui a fait un bel article très amoureux de cet auteur. Et puis il y a aussi une chose, c'est que l'écrivain Marc Villard, qui aime également beaucoup les romans de Bill James, a fait une nouvelle qui n'est pas à la manière d'eux, mais qui est en continuité, disons, avec l'univers, les personnages, enfin voilà, donc c'est pour qui aime les enquêtes un peu à la les enquêtes brillantes à la Ed McBain, Bill James est hautement recommandé. C'est pour ça d'ailleurs que je préciserai que bien évidemment à 813 nous aimons le roman noir parce que il est sans doute la littérature de l'époque, mais en même temps, littérature aux policières au pluriel, d'où Ellery Queen avec le côté plus classique, d'où Bill James avec le côté enquêteur policier, voilà. Et puis d'où aussi Harry Cruz ou Larry Brown ou d'autres qui, eux, sont du roman noir dans la lignée des Thompson ou Goodis.
On est bien dans les littératures policières. Alors, au sommaire, je voudrais qu'on s'arrête rapidement sur deux autres articles. Hervé, bon, il y a bien entendu toutes les chroniques habituelles, l'actualité. Oui. Il y a aussi la playlist. Cette fois, c'est la playlist de David Peace. Qui aura bientôt une actualité éditoriale, puisque je sais que tu travailles sur sur un de ces textes qui va sortir à la rentrée, je pense.
Il y a un très gros roman de David Peace, avec le style de David Peace, et qui raconte l'épopée de Bill Shankly, qui fut celui qui propulsa le Liverpool Football Club avec ses écharpes et ses drapeaux rouges partout dans le stade, avec un cop extraordinaire, et qui le propulsa tout en haut de l'affiche.
Donc pour les fans de foot, un roman là, il faut qu'on date pour la rentrée sur le Football Club de Liverpool. Alors rapidement, Hervé, moi deux articles qui m'ont assez, surpris. Un qui m'a surpris. Ça s'appelle « Faut-il travailler avec la police ?» par Alain Claret. Donc, étonnant cet article. Et qui est ce monsieur Alain Claret, Claret, Hervé ?
Écoute, Alain Claret est quelqu'un qui a, à ce que je sais... publié des romans pas du tout étiquetés polar, hein, chez Robert Laffont. Et puis, il a envoyé un texte à notre rédactrice en chef, Jeanne Guyon, qui était un peu une sorte de réflexion avec un côté un petit peu, en tout cas, pas pamphlétaire, mais un côté humeur sur le roman noir et sur le rôle du roman du polar aujourd'hui. On en a discuté, on a trouvé que c'était, on est d'accord ou pas, mais que c'était pertinent, bien écrit, argumenté. Et ça fait partie des choses qu'on aime de temps en temps publier. On l'avait fait aussi une fois, je crois qu'on avait publié une charge un peu de Jean-Christophe Brochier par rapport à la déferlante du polar nordique tous azimuts. Enfin voilà, il y a comme ça...
c'est très bien écrit, c'est percutant. Alors bon, rapidement, pour les auditrices, les auditeurs, c'est un regard sur le roman noir français d'aujourd'hui, mais en l'inscrivant dans l'histoire du roman noir, et avec un postulat qui est celui-là, je cite une phrase, « L'Amérique d'aujourd'hui est encore présente dans les romans de Chandler, alors que Simenon, dans ses meilleurs romans, nous parle d'une époque disparue. » Donc il oppose effectivement deux écrivains qui sont des écrivains importants pour le roman policier, pour le roman noir. Et donc il oppose aussi deux systèmes d'écriture, et ce qui explique d'ailleurs le titre « Faut-il travailler avec la police ?» comme a pu le faire Simenon et son Maigret, contrairement à Chandler, qui d'ailleurs lui-même le reconnaît dans certains de ses romans, l'histoire, enfin l'intrigue, il s'y perd aussi.
Oui, ça bien, bien malin, celui qui, à la fin du grand sommeil, a exactement compris tout ce qui se passait, et en fait, on s'en fiche un peu. Mais ça n'est peut-être pas là qui est l'important. Alors, c'est tout à fait intéressant pour ça. Il fait aussi des liens avec, comme d'ailleurs dans la ligne d'un Manchette les faisait, parce que il n'y a pas de raison de cloisonner, des liens entre le roman noir et ce qu'ont été des écrivains comme Zola, Maupassant, Hugo, enfin bon, voilà. Mais il a qui évidemment ont à voir avec le noir, mais ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement l'article est tout à fait pertinent, même si par exemple moi je suis en désaccord total avec cette différence.
Cette vision de Simenon surtout.
Pense que évidemment le personnage de Maigret, dont d'ailleurs les enquêtes n'ont pas plus d'importance que celle de Philippe Marlowe, enfin je veux dire d'importance, on ne les lit pas pour ça, mais de toute façon il reste les romans durs ou de Simenon.
On pourrait dire les romans noirs.
Voilà, on dans ce qu'elle fouille des êtres et dans leurs atmosphères, que les rues échangées d'allure ne comptent pas beaucoup, ont gardé toute leur modernité, mais ça ouvre des discussions,
Tout à fait, c'est à lire. Alors, on va revenir rapidement à Simenon, mais avant, donc je cite qu'il y a aussi un article « Cuba au Pays Basque » par Marie Otsandi, j'espère que je prononce bien.
Marie Otsandi, oui.
Otsandi, voilà, qui est consacré à l'homme qui a vu l'homme, donc de Marin Le Dain, on peut quand même le faire référence à cet article, puisque Marin Le Dain était présent aussi le 1er mai à Arras, et il a reçu le prix Amila Maker pour ce roman, 2014. Donc, une revue qui est vraiment en plein dans l'actualité.
Ah, ben oui, hein.
dans l'actualité. Alors, pour terminer pour aujourd'hui avec toi, Hervé, un petit coup de cœur. Donc,
alors, juste une chose, je voulais aussi signaler quand même qu'il y a... parce que nous avons parmi nous à 813 dans le comité de rédaction, on a Pierre-Michel Pranville qui est un spécialiste, un fin connaisseur des littératures espagnoles et portugaises, et on a un entretien avec un écrivain portugais, Miguel Miranda, et c'est intéressant. Il y a aussi une petite présentation de ce qu'est le polar portugais, parce que on aime bien aussi explorer des territoires qui ne sont pas tellement qui sont pas loin de chez nous, mais qui ne sont pas tellement sur lesquels le projecteur n'est pas souvent mis par les médias ou autres, hein, voilà.
Avec un joli titre, Secouer la poussière de l'histoire.
Ouais, c'est pas mal.
Ouais, ouais. C'est très bien. Alors, Hervé, ton coup de cœur, cette fois, c'est un poulpe.
Mon coup de cœur, c'est un poulpe. Mon coup de cœur, il a un titre qui, on a parlé de Simenon et qui fait directement référence, puisque c'est l'année des fers chauds. Les fers chauds étant deux mots séparés, ce qui renvoie à l'aîné des fers chauds de Simenon. La référence est de toute façon, je vais y revenir tout à l'heure, mais est tout à fait justifiée. Pour aller vite, le roman commence, Gabriel le Couvreur, notre poulpe, est en train d'hiberner dans un agréable laisser-aller, pile de livres en retard, quelques bières à déguster. Et puis arrive une carte de sa chérie Cheryl, qui lui arrive de Liège, où au milieu de mots d'amour et de quelques futilités agréables, elle lui glisse qu'un ami de son cousin est mort assassiné. L'ami en question, c'est Christian Fischer, il est marié, il a deux enfants, le couple bat de l'aile parce que la misère frappe un peu à la porte, la détresse en tout cas, il est sidérurgiste d'une industrie dont on sait qu'elle est sacrifiée, voire Florange et compagnie, et à une époque où il n'y a plus une cheminée qui fume dans la vallée de la Meuse, quoi. Et donc, avec son copain, son très cher copain Lounès, ils font les vide-greniers, ils essayent de trouver des trucs, de les revendre, de faire de la broque, de se faire un peu de black, enfin bon, tout ça. Et puis voilà, ça va démanger le poulpe, qui n'attend quand même qu'une raison de sortir de sa tanière. Ça provoque un déclic, et voilà, il sort de son trou,
et alors,
il va aller y voir.
Voilà, et tout ça va l'amener à Liège.
Tout ça va l'amener à Liège, qui la est ville, la ville natale de Simenon, et qui va être aussi une bonne destination, parce que c'est ce que lui dit Gérard, le patron de son bar préféré, là, le pied de port de la Sainte-Scolas, c'est que là-bas, les bières ne sont pas mauvaises, n'est-ce pas? C'est-à-dire donc, mais entre quelques absorptions d'abbaye d'Orval, Jupiler, Marais de Soux, etc., il va petit à petit faire des rencontres, rencontrer les camarades de travail, des syndicalistes, la veuve de Christian Fischer. Il va chercher, être sur la trace du fameux Lounès qui lui file un peu entre les doigts. Et c'est absolument, c'est une aventure qui est tout à fait rebondissante, mais ça c'est le côté, c'est-à-dire c'est vraiment un poulpe tout à fait réussi là-dessus, sans temps mort, mais où on l'a compris, il y a une dimension sociale présente, avec ces hauts fourneaux qui ferment, voilà, le livre est d'ailleurs dédié à tous les métallos de la sidérurgie liégeoise, mais tout cela est en atmosphère, joue évidemment un rôle. Je ne vais pas révéler ce qui est arrivé à Christian Fischer, mais tout ça, ça teinte le livre, ça lui donne une puissance, mais il y a aussi de l'humour, il y a un style absolument remarquable. Dominique Delahaye, moi j'avais déjà lu un roman de lui auparavant, c'est un écrivain vraiment qui a un sens des phrases, de la formule, d'une beauté de la langue, et ça coule comme la Meuse. C'est vraiment beau. C'est quelqu'un qui sait faire parler aussi les lieux, les rues de Liège, les canaux, la visite d'un cimetière en trois pages devient évoque des choses humaines, des choses historiques et sociales. C'est très très bien. Il sait aussi faire parler tout bêtement l'atmosphère d'une gare. J'ai envie, ça c'est à son départ. Il dit: Gabriel est resté une vingtaine de minutes devant le grand panneau où s'inscrivent les horaires, les destinations et les quais de départ. Depuis qu'il est gosse, il est fasciné par ces petits volets qui claquent dans les lucarnes à chaque changement d'affichage. L'impression de voir feuilleter un inépuisable roman d'aventure, chaque voyageur, sa valise au pied, attendant le chapitre qui l'intéresse. Et je trouve que c'est par là qu'il y a une correspondance avec ce que Simenon savait faire, avec des mots simples, mais avec une espèce de profondeur, de chaleur du verbe, et ce qui fait un de ces romans à hauteur d'homme comme on les aime tout particulièrement. Donc vraiment il faut lire cette aventure du Poulpe pour retrouver Gabriel Le Couvreur, oui. Mais pour aussi, si ce n'est pas encore fait, découvrir l'écriture de Dominique Delahaye.
Voilà, donc Hervé, on sent que vraiment c'est un vrai coup de cœur.
Ah oui,
donc,
vraiment.
Tu nous redonnes le titre.
Dominique Delahaye, ouais. Ça s'écrit D-E-L-A-H-A-Y-E, l'année des fers chauds. Le Poulpe chez Baleine. Voilà, et je signale également que simultanément Dominique Delahaye sort une novella à fond de cale dans la collection Polaroid chez Inuit.
Mais écoute Hervé, merci pour toutes ces informations, merci pour ce coup de cœur.
Eh ben avec grand plaisir, et puis ben, bonne journée à tous, et puis salut Guy, merci.
That big eight-wheel rolling down the track means your true loving daddy ain't coming back. I'm moving on, I'll soon be gone. You were flying too high for my little old sky, so I'm moving on. That big loud whistle as it blew and blew said hello to the Southland, we're coming to you and we're moving on. Oh, hear my song. You had the laugh for me, so I'm setting you free, so keep moving on. Mr. Fireman, won't you please listen to me, cause I got a birdie mama in Tennessee. Keep moving me on, keep rolling on. So shovel the coal and let's just rattle and roll and keep moving on. Take that throttle in hand. This rattler's the fastest in the southern land. It keeps you moving me on, keeps you rolling on. You're gonna ease my mind and put me there on time. Keep rolling on. I've warned you, baby, from time to time, but you just wouldn't listen or pay me no mind. So I'm moving on, I'm rolling on. You have broken your vow and it's all over now. So I'm moving on. Switched your engine, now I ain't got time for a trifling woman on my main line. So I'm moving on, you done your daddy wrong. I've warned you twice, now you can settle the price, cause I'm moving on. Someday, baby, when you had your way, you're gonna want your daddy, but your daddy will say, keep moving on, stayed away too long. I'm through with you, too bad you're blue, keep moving on.
Johnny Cash et Waylon Jennings dans Variation en noir sur Radio PFM. Alors comme promis, bien nous allons entendre Antonin Varenne qui était donc à Arras le 1er mai dernier à l'occasion de la sortie de son roman 3000 chevaux vapeur. Antonin Varenne, comment fait-on pour passer d'un sombre bureau du Quai des Orfèvres dans le roman qui vous a révélé au grand public, on va dire ça comme ça, Fakir,
ou même de la guerre d'Algérie et de la boxe dans le deuxième roman, enfin le roman qui vous a aussi permis d'obtenir un prix, le prix Amila Mecker, le mur, le marin, le mur, le Kabyle et le marin. Donc comment fait-on pour passer de ces romans à, au dernier roman qui est vraiment construit comme un roman historique d'abord et d'aventure.
Alors le côté historique a découlé d'un choix qui était pas qui était l'envie d'écrire un western. Et j'ai l'impression que le dérapage a commencé avec le personnage du boxeur dans le mur, le Kabyle et le marin. Donc le personnage du mur qui était pour moi un personnage plutôt à la Jack London et c'est je pense que c'est la construction de ce personnage qui a commencé à me donner des envies de bouquins plus type aventure. Et après l'impulsion la première c'est de faire un western, c'est un goût de gamin hein, de commencer par ça et puis ça s'est transformé en c'était une époque, c'était un genre. Et le dérapage n'est pas complet par rapport au polar parce qu'il y a encore des éléments de polar dedans et donc voilà, c'est un autre environnement, un autre objectif où l'intrigue criminelle est plus centrale et où l'intérêt devient de faire évoluer des personnages qui symbolisent une autre, qui représentent une autre époque et qui jouent en miroir bien sûr avec la nôtre. Et donc pour moi la glissade a été naturelle et c'était une impulsion de plaisir vraiment. Et puis passer de la guerre d'Algérie, après le bouquin sur la guerre d'Algérie, j'ai eu envie de me faire plaisir à écrire un truc où c'était plus un jeu historique que l'obligation d'avoir des recherches très très précises, poussées, sans erreur. Là je m'amuse à croiser Darwin mais c'est pas une thèse d'histoire, c'est un roman d'aventure et dans lequel je fais des petites incursions historiques quoi.
Alors, on parlait de glissade, ce qui est quand même impressionnant dans 3000 chevaux vapeur, c'est le titre du roman, c'est le grand écart entre le point de départ, on est quand même en Inde, en Asie, et effectivement, on finit de l'autre côté hein, de la planète, on finit aux États-Unis du Far West. Alors c'est quelque part pour un roman historique, c'est quasiment un roman planétaire, ou alors il y a une volonté d'un tour du monde en littérature d'aventure.
Donc comme j'étais parti de l'idée de faire un western en 1850 tous les Américains sont en fait que des Européens expatriés et du coup il a fallu que je choisisse un pays d'Europe, un pays d'origine pour mon personnage. J'ai choisi qu'il soit anglais et quand je vais chercher un passé ou une activité j'en ai fait un soldat de la Compagnie des Indes britanniques. Du coup j'ai encore reculé vers l'est, c'est-à-dire pour arriver à l'ouest américain je suis d'abord été à l'est vers l'Angleterre, puis encore à l'est à l'Asie, jusqu'en Asie, Birmanie, Inde et Birmanie. Et après, comme l'idée de la... J'avais très envie de bosser sur l'histoire de cette Compagnie des Indes, alors qui n'est pas centrale, mais qui était justement un trust, c'est un des plus grands trusts que la planète ait connu. Et du coup, on est dans une image aussi de la modernité naissance, de la des premières sortes de globalisation. Et du coup, Bowman qui commence comme militaire de la Compagnie des Indes, sa transformation et son voyage qui se fait sur une douzaine d'années, il devient planétaire aussi.
Ouais, j'ai pas osé le mot mondialisation, hein, mais bon, c'est la mondialisation de l'aventure. Et alors, troisième question, justement, donc on commence en Asie, en Inde, en Birmanie, on s'arrête ensuite en Grande-Bretagne, à Londres, et ensuite on arrive en Amérique. Enfin bon, on parle encore de l'Amérique dans ces années-là, même s'il s'agit bien des États-Unis. Et on ne s'attend pas, parce qu'on est dans les années 1850, 1860, hein, on ne s'attend pas au choix de la scène qui va mettre en relation votre personnage principal, votre héros, le sergent Bowman, on ne s'attend pas à cette rencontre avec l'Amérique, les États-Unis. Hein. On pense plutôt aux diligences, aux Indiens, etc. Et c'est quand même un choix. Qu'est-ce qu'il y a derrière c'est, bon, vous allez dire ce que c'est cette rencontre, mais quelle était la volonté d'émythifier peut-être cette terre d'aventure?
Complètement, c'était l'arrivée de Bowman à New York. Il y a toutes les images, tous les clichés, enfin pas les clichés, les images qu'on a en tête de, alors soit des immigrants pauvres débarquant à Ellis Island, soit plutôt le lord anglais débarquant sur un bateau luxueux pour aller chasser le bison ou quelques indiens. Et comme j'étais dans cette idée de travailler sur la Compagnie des Indes disparaît, mais à ce moment-là, les États-Unis, nouvel empire économique, se construit, et donc il y a toujours une résonance sur alors les compagnies de train, les banques, tout ça, tout ce qui est en train de se construire. Et du coup, l'arrivée de Bowman à New York, je voulais qu'elle soit marquée sous le sceau d'un conflit social, en fait. Et donc d'échapper à toute l'imagerie western qui se développe après, avec laquelle je m'amuse aussi après. Mais l'arrivée, c'est modernité, et c'est un conflit. Donc, en fait, Bowman débarque au milieu d'une manifestation d'ouvrières du textile qui se font tirer dessus et abattre par la troupe. Et ça, c'était... Pour moi, c'était très très important de démarrer les États-Unis de cette façon-là. J'avais lu le magnifique ouvrage de Zinn, de Ward Zinn, une histoire populaire des États-Unis dans mes recherches. Et pour moi, en plus, c'est une scène qui est directement un hommage au boulot de l'historien de Zinn, qui est de mettre en valeur les conflits sociaux et la résistance ouvrière à cette époque. Alors voilà, on parle d'une terre d'opportunités, de rouées vers l'or, d'indiens, de trucs. Et en fait, à la même époque, il y avait déjà les syndicats commençaient à se former, et il y avait très souvent beaucoup, beaucoup de grèves, de conflits sociaux. Et donc voilà, je voulais que ça démarre comme ça.
Antonin Varenne, merci. Et donc, 3000 chevaux vapeur aux éditions Albin Michel, à lire et à conseiller à tous ceux qui aiment la littérature d'aventure. Et ça a été dit, une littérature d'aventure historique bien documentée.
C'était Variation en Noir sur Radio PFM dans Variation, le dernier vendredi du mois, une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec son président Hervé Delouche. Rendez-vous dans un mois, fin juin, et nous bouclerons à cette occasion une première saison de Variation en Noir en revenant sur l'année éditoriale dans le genre qui a nos faveurs.